On dirait des nouvelles.
Jean-François Cadet,
Mickaël Goncalves,
Baptiste Antoine.
Le magazine que vous allez suivre est une rediffusion.
Bonjour, bonsoir. C'est un mathématicien de formation qui joue avec les lettres et les mots. Il a écrit des romans, des nouvelles, de la poésie, du théâtre. Et s'il a reçu le Grand Prix de l'humour noir, ses personnages et ses histoires sont hautes en couleur. Son dernier roman est tout simplement jubilatoire, tant il mêle avec bonheur tous ses ingrédients, avec en plus une quête de sens aux confins des sciences et de la philosophie. Pour paraphraser l'éditrice d'un de ses personnages, c'est un livre étrange, au rythme lancinant qu'on ne peut lâcher, qui est déjà parvenu à séduire 6 pays étrangers avant même sa parution en France. On parle même d'une série télévisée et on n'a clairement aucun mal à l'imaginer. Hervé Le Tellier est avec nous, L'Anomalie est à découvrir chez Gallimard et vous m'en direz des nouvelles. Bonjour Hervé Le Tellier.
Bonjour.
La quatrième de couverture du livre précise que vous êtes membre de l'Oulipo. C'est d'ailleurs le début de votre petite biographie hein, en quatrième de couverture de cette collection blanche. L'Oulipo, c'est un groupe d'écrivains héritiers du surréalisme. Hein, pour faire simple, adepte des jeux d'écriture, notamment à travers l'écriture sous contrainte. On peut citer par exemple La Disparition, le livre de Georges Perec, un roman écrit sans la lettre E. Rien de tel dans ce roman, en tout cas, semble-t-il. Est-ce que vous êtes imposé des contraintes d'écriture?
Oui, mais j'en ai pas fait du tout d'abord la publicité. Donc
vous en parlerez pas aujourd'hui?
Non, j'en parlerai pas beaucoup parce que elles sont pas visibles.
Ah,
elles ne concernent que l'écrivain et elles n'ont pas servi ni à la structure ni à grand-chose en fait.
Pourquoi vous dites qu'elles ne concernent que l'écrivain? Vous n'avez pas envie de partager cet élément-là avec vos lecteurs?
Non, c'est pas nécessaire. Je veux dire, le livre se lit sans qu'on voit du tout les ficelles qui parfois me m'aident à trouver un moyen d'éviter le premier jet. J'aime bien éviter le premier jet, donc j'ai des petits trucs personnels que j'utilise. Et c'est pas du tout une nécessité pour le lecteur de les connaître. En plus, je pense que ça peut arrêter. On peut chercher. Or, je souhaite pas qu'on cherche. Je cherche qu'on lise.
Mais vous, Hervé Le Tellier, est-ce que vous voyez l'écriture comme un jeu?
Je la vois partiellement comme un jeu. C'est-à-dire, pour moi, le jeu de langage, c'est pas une impossibilité du tout. Je la vois surtout comme une recherche d'une complicité avec le lecteur, d'un rapport d'impact. Je vais te raconter une histoire, accepte tout ce qu'elle contient, même si c'est une invention totale, et fais-toi une nécessité de supposer que tout est vrai.
Mais le livre que lit le lecteur n'est pas forcément celui qui écrit l'écrivain,
tout.
D'ailleurs vous le dites
même
à l'intérieur du livre.
Oui, c'est pas du tout le même livre.
Et c'est heureux.
Et oui, c'est une nécessité, c'est une impossibilité, même l'écrivain lui-même... Quand il relit son livre, il découvre des choses des années plus tard, ou même parfois au moment même où le livre sort, il découvre que le livre qu'il a écrit est différent de celui qu'on a écrit. Mais c'est compliqué parce que le lecteur est toujours avec son propre imaginaire. Si vous dites à un lecteur « le ciel était bleu », tout simplement, personne n'a le même bleu en tête. Chaque livre est justement fait de cette diversité qui est celle de chacun des lecteurs, et je trouve ça très bien comme ça.
Alors dans L'Anomalie, il y a un écrivain qui s'appelle Victor Mizel, et son éditrice lui demande « quand cesseras-tu de jouer ?» Et juste après, vous précisez que Victor est plus joueur que jamais. Est-ce que Victor Mizel serait votre double littéraire?
C'est tout à fait à la fin du livre, et c'est un personnage qui m'a servi de fil conducteur. Victor Mizel est un personnage plutôt attachant pour moi. Je ne sais pas si c'est mon double, mais en tout cas, il a vécu beaucoup de choses que moi-même j'ai vécues. Ce personnage donc d'écrivain est un personnage un peu raté, qui est traducteur aussi, qui d'un seul coup va connaître le succès d'une manière absolument imprévisible, et qui va avoir l'opportunité de revivre une deuxième fois sa vie. Ce qui n'est pas donné à tout le monde.
Alors certes, il est l'auteur d'un livre qui s'appelle L'Anomalie.
S'appelle
et là,
L'Anomalie.
Forcément, ça dit quelque chose au lecteur. C'est son 7e livre à lui. Vous avez écrit un petit peu plus que ça.
Plus,
hein.
Ouais. Il est plus jeune.
Donc il y a L'Anomalie qui est enchâssé en quelque sorte dans L'Anomalie. Et il se trouve que plusieurs des personnages lisent le livre L'Anomalie de Victor Mizel dans le livre L'Anomalie d'Hervé Le Tellier. Voilà, j'espère que c'est à peu près à peu près clair pour tout le monde. Et son éditrice, je l'ai citée en ouvrant cette émission, trouve que c'est un livre étrange, au rythme lancinant qu'on ne peut lâcher. Ce livre va en tout cas connaître le succès. Je souhaite évidemment la même chose à Hervé Le Tellier.
C'est pas du tout le même livre, en fait. Hein. C'est un livre tout à fait blanc. Hein. Le livre qu'a écrit Victor Misol est un livre très bizarre, qui était presque une sorte d'ouvrage testamentaire d'un homme dépressif, d'un homme en tout cas qui va commettre l'irréparable. Et donc c'est un livre très différent du mien, mais il y en a des petits extraits, 2-3 pages à l'intérieur pour qu'on comprenne dans quel état est Victor Misol au moment où il écrit ce livre qui pour lui est son dernier livre.
Voilà, un livre qui va donc lui permettre de connaître le succès. Le succès à 50 ans, c'est la moutarde qui arrive au dessert, comme vous l'écrivez. Il y a plusieurs aphorismes hein, comme ça qui arrivent sous votre plume. Le vrai pessimiste sait qu'il est déjà trop tard pour l'être.
C'est vrai. Je trouve que la définition que donne Misol du pessimisme est une assez bonne définition. Voilà. Quant à la phrase sur la moutarde qui arrive au dessert, ouais. C'est pas une phrase de moi, c'est-à-dire c'est une phrase que Kaloulipo on connaît bien parce que c'est une phrase de Raymond Queneau et qui parle de son succès avec Zazie. Il écrit
Zazie dans le métro.
Ouais, ouais. Voilà, il écrit à la fin des années 50. C'est publié en 59 ou 60 et il connaît le succès avec ce livre alors qu'il a déjà 57, 58 ans et il dit cette phrase définitive sur cette arrivée du succès qui est trop tardive et pour qu'il en jouisse véritablement. Au niveau de son quotidien, au niveau de sa vie sociale, etc. Et ça l'intéresse déjà plus, il est passé à autre chose.
Mais c'est vrai que le temps qui passe est aussi un des éléments majeurs hein, de l'évolution du personnage de Victor Misol. Personne ne vit assez longtemps, autre aphorisme. Hein. Personne ne vit assez longtemps pour savoir à quel point personne ne s'intéresse à personne. Pas vraiment optimiste. Et puis, vous parlez de l'écriture aussi à travers Misol. Il suffira qu'une de ses phrases soit plus intelligente que lui pour que ce miracle fasse de lui un écrivain. C'est
oui,
une phrase terriblement lucide, ça, Hervé Le Tellier.
Je ne sais pas si c'est lucide, mais c'est vrai que les écrivains passent du temps à peaufiner un livre et une phrase, et que souvent le résultat est très supérieur à ce qu'ils sont eux-mêmes. Il faut espérer ça, justement. Il faut espérer que le travail qu'on accumule sur de la syntaxe, du vocabulaire, une structure, de la mélodie, obtienne finalement un condensé de ce qu'on est, qui est supérieur à ce qu'on est, puisqu'on a passé un temps fou. Je me souviens d'une phrase, je crois que c'est Hugh Grant. Vous savez, cet acteur américain, qui commence une interview en disant, je vous préviens, je vais pas être très drôle, les personnages qu'on m'écrit sont infiniment plus drôles que moi. Et c'est vrai que c'est un problème de jouer en permanence des gens qui sont extrêmement intelligents, extrêmement fins, extrêmement drôles, lorsque soi-même on peut être fin, drôle et intelligent, mais pas aussi fin, aussi drôle et intelligent qu'un personnage construit qui se retrouve à être projeté dans sa vie, quoi.
Voilà, donc un personnage qui, en ce qui concerne Victor Misol, est comme vous, écrivain. Il a un petit peu de mal, hein, pendant une grande partie de sa carrière, à se nourrir financièrement parlant uniquement de la vente de ses livres. Et donc, il fait de la traduction, comme vous dites. Et c'est lors des assises de la traduction qu'il va croiser une femme qui va compter, hein, dans sa vie. Et il noue un contact à travers, justement, une question de traduction
autour une blague autour de la crème chantilly.
Voilà, la crème chantilly. Alors, racontez-nous, parce que ça, c'est quand même très très curieux, et je trouve que c'est assez représentatif du type d'humour qu'il peut y avoir dans votre roman.
Bah, les Anglais traduisent crème chantilly par French cream. Et comme il ne sait pas comment aborder cette femme, comment trouver un moyen d'entrer en contact avec elle, et que, après tout, tout le monde est aux assises de la traduction, il arrive au moment, aux assises de la traduction, à Arles, on est tous à un moment donné à faire la queue pour prendre son dessert, par exemple, il arrive au moment du dessert, il y a de la crème anglaise. Il se pose la question, comment est-ce qu'on pourrait traduire crème anglaise en anglais? Et elle lui répond, puisque chantilly, c'est un hippodrome et qu'on dit crème chantilly pour French cream, elle dit Ascot cream. Ce qui est une idée assez jolie, alors que la crème anglaise n'existe pas en Angleterre. Ce qui est quand même le summum de la crème anglaise. Ils ont des choses équivalentes, comme la custard, mais la crème anglaise en tant que telle, ils n'ont pas.
Voilà,
de même que nous, on n'a pas la crème française.
Non plus, voilà. Effectivement, donc jeu sur la langue, voilà. Jeu d'humour, effectivement. Il y a beaucoup d'exemples hein, de ce genre dans ce roman. Donc Victor Misol, il fait partie, Hervé Le Tellier, des passagers du vol AF-006 qui fait la liaison entre Paris et New York et qui se trouve en ce 10 mars 2021 au-dessus des eaux internationales en approche de la côte est des États-Unis. Et vous en présentez quelques-uns de ces passagers dans la première partie du livre. Alors il y a une monteuse de cinéma, un architecte, un chanteur nigérian, une avocate noire qui s'est faite toute seule parce qu'elle ne voulait pas devenir couturière comme sa mère, un tueur à gages qui vit sous de multiples identités pour accomplir sa tâche. Il y a aussi quelques autres personnages, une petite fille qui a une grenouille, un personnage assez mystérieux, on ne va pas en dire plus, mais on les découvre vraiment par petites touches, ces personnages, à travers leurs actions, à travers leurs souvenirs, aussi à travers leurs pensées, à travers leurs vagues à l'âme. Souvent, Hervé Le Tellier, qu'est-ce qui fait un bon personnage de roman pour vous?
Alors, effectivement, c'est une bonne question, parce que je me suis attaché à faire un chapitre par personnage et d'avoir quasiment, surtout la première partie, des présentations très courtes. Quand je dis très court, ça veut dire que c'est en 5 pages. En 5-6 pages, je définis un personnage. Ce qui fait pour moi un personnage qui va fonctionner, c'est quelqu'un à qui on s'attache tout de suite, dont on comprend tout de suite les motivations très intimes, et qu'ensuite on va développer touche à touche. Le personnage, c'est pas quelqu'un qu'on va décrire. Il y a quelques années, je me souviens...
Il y a très peu de descriptions physiques, effectivement. En revanche, il y a beaucoup de souvenirs, il y a beaucoup de sentiments, d'émotions. Vous vous placez plus, finalement, dans la tête et dans le cœur des personnages que dans leur corps.
Parce que je pense que les personnages peuvent être construits par les lecteurs. Justement, on revient à cette question de la manière dont le lecteur construit un personnage. Je peux dire que l'avocate est noire. Je peux dire qu'un tel est blond. Je peux dire qu'un tel est en surpoids. On peut toujours avoir des définitions infinitésimales. Et après, une fois qu'on a posé ces éléments, qui sont des tout petits éléments de définition, disons physique, le lecteur peut faire son travail. J'ai été frappé il y a quelques années. Mon éditrice me parle d'un de mes personnages, me dit qu'il n'est pas assez incarné, que je devrais faire l'effort de la définir plus, de la décrire. Et je me dis, bon, pour moi, ce personnage que j'avais en tête, et elle avait raison, hein, absolument raison, je m'étais pas rendu compte, en décrivant ce personnage, qu'elle n'était pas définie. Et au fond, comme je parlais de quelqu'un que je connaissais, je me suis dit, mais c'est bon, j'en ai assez parlé. En fait, non, le lecteur ne peut pas la définir. Et je me suis dit, elle ressemble pour moi à l'impression que j'ai eue adolescent en lisant Salammbô de Flaubert. Et je me suis replongé dans Salammbô en me disant, je vais certainement trouver dans Salammbô un moment où il décrit Salammbô, puis je vais... comme je le fais parfois, m'inspirer de la manière dont travaille tel ou tel auteur dont je suis très admiratif, pour essayer de faire, non pas forcément pareil, mais enfin à ma mesure, essayer d'approcher ce type de définition, ce type de description. Et je me suis rendu compte que dans Salammbô, il n'y a quasiment pas de description de l'héroïne, qu'elle est définie par touche, qu'à un moment donné, on dit que sur l'épaule, elle a une tache de mica, qu'elle a une goutte de sueur sur le nez, que une boucle sur son front... vient se coller à cause de la sueur. Et ce sont des tout petits éléments qui font que le lecteur, au fur et à mesure, construit son personnage dont jamais, jamais, le Flaubert ne donne une description complète. C'est pas la peine. En fait, c'est pas la peine. Je pense que ce qui fait la force d'un personnage, c'est avant tout sa psychologie, avant tout ses motivations, et que chacun peut mettre derrière Johanna, derrière Blake, les images qu'il veut. Je trouve ça plus fort. Je trouve que c'est... Blake, je le définis pas pour des raisons très simples, c'est que c'est un tueur à gages, il change.
Voilà. Blake, c'est celui qui fait sa vie de la mort des autres, ce qui est une très bonne définition de la profession.
Oui, enfin, je la connais pas très bien, je vous rassure, mais en fait, oui. À mon avis, c'est une définition possible.
Vous en connaissez pas personnellement, il n'y a pas de personnage réel qui a inspiré Blake.
Par définition, si j'en connais, ils ne l'ont pas dit. Voilà.
Bon, il y a un personnage dont on n'a pas encore parlé, c'est le commandant David Markle. C'est lui qui est aux commandes donc de cet avion, donc le vol Air France 006, un Boeing. Et à ce moment-là du livre, nous sommes page 52 du roman, il vient d'annoncer à ses passagers et à l'équipage l'entrée dans une forte zone de turbulence.
L'avion connaît 10 interminables secondes de chute libre avant de pénétrer dans le cumulonimbus au pire endroit, au sud-ouest de la colonne, avec une inclinaison effarante, un angle de 30 degrés que lui impose l'assistance au pilotage qui a pris le relais des commandes manuelles. Le Boeing est roulé dans les courants tourbillonnants de nuages, et tout de suite aussi, le cockpit s'allume, car c'est la nuit, un noir de suie, et un fracas épouvantable. Des centaines d'énormes grêlons mitraillent les vitres, en laissant ici et là un impact dans le verre blindé. Quelques instants qui paraissent sans fin, et, malgré les rafales de la tornade, le Boeing retrouve le courant ascendant chaud et un peu de portance. Cette fois-ci, c'est une intense sensation d'écrasement de bas de grand 8. Markle, sanglé dans son fauteuil, pousse au maximum les deux générales électriques. Parce que oui, qu'est-ce que c'est que cette espèce de saleté? Un poteau noir pareil, c'est bon pour un Rio Madrid vers l'équateur. Qu'est-ce que ça vient fiche en plein Atlantique Nord? Putain, c'est trop bête, on a les plus puissantes des chaudières, des ailes d'une souplesse épatante. On ne va tout de même pas se laisser casser en deux comme un modèle réduit. Ce n'est pas possible. Sur le Simu, on s'en est sorti des dizaines de fois avec des moteurs qui avaient lâché, avec des dépressurisations, des ordinateurs de bord en rade. Merde, on ne va pas se planter en vrai. Markel ne songe pas à ses gosses, pas à sa femme, pas encore. Peut-être même que les pilotes meurent toujours sans avoir eu le temps de faire défiler leur vie. Et Markel ne pense pas du tout aux passagers. Là, il essaie juste de sauver ce gros Boeing, bien lourd et bien pâteux. Alors il répète des gestes appris par cœur, répétés encore et encore. Il se fie à des réflexes et à ses 20 années d'expérience. Mais c'est tout de même un sacré truc. Markel et Favreau, secoués, chahutés, livides, se concentrent sur les instruments. Ils se battent avec la tempête. Plus tard, on apprendra que c'était la plus violente et la plus subite des 10 dernières années. Le voyant de la turbine gauche indique une perte de puissance de 15%. Mais le champ électrique intense perturbe l'électronique de bord. Et au bout du compte, dans cette tornade, l'avion résiste, se maintient à peu près à l'horizontale, finit par se stabiliser, et même si la grêle ne faiblit pas, si le pare-brise est constellé en surface, la seconde épaisseur ne présente aucune micro-fissure inquiétante. Markel, dès que les secousses s'atténuent un tant soit peu, s'adresse à la cabine. Malgré le bruit assourdissant qui règne dans l'habitacle, il essaie de ne pas crier. « Sorry, folks, pour ces turbulences !» Nous allons devoir continuer notre route vers New York à travers le cumulonimbus et rester dans cette lessiveuse pendant au moins... Soudain, un soleil éblouissant revient dans le cockpit. Le Boeing accélère brutalement. Le silence se fait de nouveau. Les perturbations sont aussitôt derrière eux. Markel vérifie les contrôles, stupéfait. L'avion vole parfaitement bien, dans un grondement régulier, mais tous les instruments sont déréglés. Malgré la chute vertigineuse durant 5 bonnes minutes, l'altitude s'affiche de nouveau calée à 39 000 pieds. Le radar météo refuse de signaler la moindre perturbation. Et le cap apparent est 260.
Bizarre, bizarre. Hervé Le Tellier, alors je vous dis tout de suite, j'ai failli lire votre roman dans l'avion. Et j'ai très bien fait de pas le faire, parce que sinon je pense que j'aurais eu vraiment du mal à supporter la durée de vol. Et encore, on n'est même pas... au bout des surprises, hein, lorsqu'on arrive à cette page 52-54 de votre livre. Le chapitre est intitulé d'ailleurs La lessiveuse, et c'est à ce moment-là que tout va basculer, parce que sans le savoir, tous les occupants de cet avion sont entrés dans ce que les services américains appellent le protocole 42. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire, Hervé Le Tellier, du protocole 42?
Protocole 42, ça a été une invention, c'est une fiction. Hein. En travaillant sur le roman, je voulais à un moment donné montrer qu'il était nécessaire d'avoir des systèmes protocolaires pour répondre à des situations précises lorsqu'il y a un incident aérien. Et j'ai inventé, en me fiant tout de même à une documentation, deux personnages qui sont des jeunes mathématiciens à qui on a confié à la suite... de 9-1-1, enfin du 11 septembre, à qui on a confié au MIT, donc au Massachusetts Institute of Technology, le soin de développer tous les protocoles possibles et imaginables pour répondre à des situations diverses et variées qui vont par exemple, le pilote de ligne dépressif qui va précipiter son avion sur une montagne, en passant par le détournement d'avion par des pirates de l'air, en passant par... la personne extrêmement malade au sein d'un avion qui peut contaminer absolument tout le monde, y compris à l'arrivée. Donc, toute une série de situations possibles. Ils en définissent un certain nombre, je crois que c'est 39, avec des variantes autour qui font qu'ils ont quasiment 500 à 800 situations toutes définies, toutes précises. Et puis, lorsqu'ils ont fini leur mémorandum, qui fait 1500 pages, ils le remettent au FBI, aux autorités aériennes américaines. Et puis les responsables des autorités aériennes leur disent « Et si quelque chose ne rentre pas dans toutes ces cases ?» Et ils répondent, ils réfléchissent, ils se marrent, parce qu'a priori c'est impossible, et ils inventent un protocole, ils disent « C'est le protocole 42 ». Alors 42, c'est parce que c'est dans le guide du voyageur galactique, le livre de Douglas Adams, que j'ai adoré quand j'étais adolescent, c'est la réponse à la question... Quel est le secret de l'univers? Et l'ordinateur le plus puissant du monde, qui a travaillé pendant des millions d'années à cette question, répond finalement 42. Voilà. Et donc, ils inventent le protocole 42, et ils considèrent que si ce protocole 42, un jour, devait se déclencher, ils seraient deux à répondre de toutes les situations possibles et imaginables, et c'est ainsi qu'ils sont convoqués, parce que ce qui se passe justement dans cet accident d'avion, dans ces turbulences, dans ce chahutement d'un Boeing, c'est quelque chose qui se met en place et qui ne ressemble à rien qu'on a pu imaginer, et ça s'appelle le protocole 42.
Vous avez évidemment reconnu Hervé Le Tellier dès les premières notes. Hein.
Oui, c'est pas très compliqué.
Alors, de quoi s'agit-il ?
Ce sont les 1, 2, 3, 4, 5, ce sont les 5 notes qui sont données pour communiquer avec les extraterrestres dans Rencontre du Troisième Type, le film de Spielberg en 77.
Musique signée John Williams. Et ce film-là vous a inspiré une scène de dialogue dans le roman. On ne va pas expliquer exactement dans quelles circonstances. On se retrouve en tout cas dans ce que vous avez appelé l'anomalie que les autorités américaines vont évidemment essayer d'expliquer. C'est humain, hein, quand on est, qu'on comprend pas un phénomène, quand en plus il y a des êtres humains à l'intérieur d'un avion qui vivent quelque chose d'absolument inexplicable, et bien on essaie d'expliquer l'inexplicable. En quelque sorte. Alors, je sais pas jusqu'à quel point vous souhaitez révéler ce qui s'est passé. Vous listez, en tout cas, plusieurs hypothèses scientifiques.
Oui, il se passe un phénomène invraisemblable. On peut, en gros, dire de la manière suivante. L'avion est soumis à une duplication. Donc, voilà, c'est un petit peu divulgaché, mais les gens se retrouvent à la fois dans un avion qui s'est posé en mars et dans un deuxième avion qui se pose en juin.
Donc les mêmes personnes, trois mois d'intervalle, se posent dans le même avion, trois mois plus vieux pour ceux qui arrivent en juin.
Voilà, enfin, ils ne se trouvent pas trois mois plus vieux, ils se trouvent justement trois mois plus jeunes pour ceux qui arrivent en juin. C'est compliqué à se mettre en place, mais justement, tous les premiers chapitres visent à montrer ce qu'ont vécu pendant ces trois mois de mars à juin tous mes personnages. Blake, Johanna, Victor Measel, tous ont vécu quelque chose pendant ces trois mois. Et au bout de ces trois mois, un phénomène invraisemblable, qui est donc l'anomalie, se produit, qui est le phénomène de la lessiveuse, dans lequel ils jaillissent une nouvelle fois du ciel, dans un ciel entièrement serein, puisque c'est le ciel de juin et plus le ciel de mars. Et l'avion est intégralement dupliqué avec ses 243 passagers, son personnel de bord. Et la question qui va se poser, évidemment, c'est qu'est-ce qui se passe lorsque on est confronté à soi-même, puisque ces gens qui arrivent, ils sont déjà là.
Donc chacun a un clone de soi-même
c'est lui-même.
Quelques semaines d'intervalle.
C'est lui-même avec les 10 semaines ou les 15 semaines qui le séparent du premier atterrissage. Et c'est une question que j'avais depuis très longtemps envie de traiter, c'est comment est-ce qu'on se confronte à soi, qu'est-ce qui est indispensable, qu'est-ce qui ne l'est pas, qu'est-ce qu'on est prêt à négocier, et comment dire, se confronter à quelqu'un qui sait tout de nous, à qui on ne peut pas mentir, avec qui on ne peut pas avoir des secrets, et avec qui, évidemment, l'intégralité de notre vie est à négocier et à partager. Vous aimez quelqu'un, mais lui-même l'aime aussi. D'ailleurs, c'est la même personne, et elle-même qui vous aime, aime aussi l'autre. Donc il va falloir trouver un moyen de s'accommoder de tout ça. Est-ce que c'est possible ou pas? Est-ce qu'on est prêt à se sacrifier pour l'autre? En général, pas. Est-ce qu'on est prêt à avoir une garde partagée pour un enfant? Est-ce que... Donc toute une série de situations que j'ai essayé de lister, et j'ai essayé d'être un peu exhaustif, sans pour autant... En sachant que l'exhaustivité est impossible. Mmh. Et c'est pour ça que je voulais autant de personnages.
Et c'est vrai qu'il y a énormément de questions que l'on se pose, nous lecteurs, en lisant le livre, et il y a énormément de questions aussi que vos personnages se posent, et notamment Meredith, une scientifique britannique qui fait partie de l'équipe de crise que la Maison Blanche a mise en place pour essayer de résoudre cette énigme. Nous sommes page 196 du roman.
Vivons-nous dans un temps qui n'est qu'une illusion, où chaque siècle apparent ne dure qu'une fraction de seconde dans les processeurs du gigantesque ordinateur? Qu'est-ce que la mort alors, sinon un simple « end » écrit sur une ligne de code? Est-ce que Hitler, la Shoah n'existe que dans notre simulation, ou aussi dans quelques autres? Est-ce que 6 millions de programmes juifs ont été assassinés par des millions de programmes nazis? Est-ce qu'un viol, c'est un programme mâle qui viole un programme femelle? Est-ce que les programmes paranoïaques ne sont pas des systèmes un tantinet plus clairvoyants que les autres? Est-ce que cette hypothèse folle n'est pas la forme la plus élaborée de la théorie du complot, élaborée dans le plus gigantesque des complots possibles? Quelle perversité d'avoir élaboré des programmes simulant des êtres aussi idiots, d'autres simulant des êtres trop intelligents pour ne pas souffrir d'être entourés des précédents, et des programmes simulant des musiciens, d'autres des artistes, d'autres encore simulant des écrivains qui écrivent des livres que lisent d'autres programmes encore, ou que personne ne lit d'ailleurs. Qui a conçu les programmes Moïse, Homer, Mozart, Einstein, et pourquoi tant de programmes sans qualité qui traversent leur existence électronique sans rien apporter ou si peu à la complexité de la simulation? Ou bien...
S'énerve encore Meredith.
Sommes-nous les simulations d'un monde de Cro-Magnon par des Néandertals, cette race de sapiens qui, elle, contrairement à ce qu'on croit, a vraiment réussi voici 50 000 ans? Au point de vouloir voir ce que ces primates africains hyper agressifs auraient bien pu accomplir s'ils n'avaient, les pauvres, disparu? Eh bien, c'est gagné. Ils le savent maintenant. Le Cro-Magnon est si indécrottablement abruti qu'il a ravagé son environnement virtuel, détruit ses forêts et pollué ses océans, s'est reproduit jusqu'à l'absurde, a brûlé toute l'énergie fossile et la quasi-totalité de l'espèce va mourir de chaud et de stupidité dans à peine 50 ans simulés. Ou tiens, ni mieux ni pire, si nous étions dans une simulation lancée par les héritiers de dinosaures qu'aucune météorite n'aurait détruit, qui s'amusent à observer un monde dirigé par des mammifères? Ou encore vivons-nous dans l'imposture d'une biologie du carbone conçue autour d'une double hélice d'ADN, univers simulé par des extraterrestres dont la vie s'organise autour d'un triple hélicoïde et de l'atome de soufre? Et même si nous étions des êtres simulés par d'autres êtres, non moins simulés dans une simulation plus grande encore, si tous les univers simulés s'emboîtaient les uns dans les autres comme des tables gigognes, comment savoir même quelle est notre apparence? Puisque dans le programme, je suis une femme blanche, jeune, brune, trop maigre, aux cheveux longs, aux yeux noirs, pourquoi la simulation ne s'amuserait-elle pas à me créer autant de variantes de mon visage ou de mon corps que d'interlocuteurs?
Et ce ne sont que quelques-unes des questions que se pose votre personnage Meredith. Hervé Le Tellier, des questions qui finalement peuvent se résumer à une seule. Sommes-nous réels? Sommes-nous dans le monde réel?
C'est une des questions que se posent effectivement les scientifiques lorsqu'on les confronte à la situation qui est cette duplication d'avions. Ils n'ont pas beaucoup d'options possibles. Et l'une des plus simples, c'est de considérer qu'en fait, c'est soit un bug dans la simulation dans laquelle nous sommes tous pris, donc nous sommes tous des programmes, croyant toucher un sous-main en cuir, manipuler un téléphone portable, croyant voir un clavier et un studio de radio, et en fait non, tout est extrêmement bien fait et bien simulé, il n'y a pas marqué RFI sur la bonnette, voilà, tout est entièrement conçu pour être une immense tromperie. Alors c'est une hypothèse qui n'est pas totalement une hypothèse inventée. Hein, c'est-à-dire que
ça s'appuie sur des travaux scientifiques.
Bien sûr. C'est-à-dire qu'il y a une vingtaine d'années, j'ai lu un article d'un philosophe qui est un philosophe suédois que depuis j'ai fait la connaissance, hein, qui s'appelle Nick Bostrom, qui dirige la philosophie à Oxford, donc qui est pas tout à fait ce qu'on appelle un plaisantin,
oui.
Et qui a émis cette hypothèse de la simulation avec un argument que je peux expliquer en deux minutes si vous voulez, qui est très simple. Soit toutes les, il y a trois possibilités. En fait, ces trois possibilités sont très simples. Soit toutes les civilisations techniques se détruisent. C'est ce qu'on est en train de faire si on n'est pas une simulation. Et si toutes les civilisations techniques se détruisent parce qu'elles sont incapables de gérer leur développement, l'exploitation de leurs ressources, et donc elles arrivent très rapidement à épuisement et elles meurent, à ce moment-là, pas de problème. Notre avenir est tout réglé d'avance.
Voilà, avenir si j'ose dire.
Avenir si j'ose dire. Destin, disons. Deuxième possibilité, nous arrivons à survivre. Enfin, une civilisation technique arrive à survivre et à devenir hyper technique. C'est-à-dire qu'elle domine sa planète, elle arrive à créer les conditions de sa survie et les ordinateurs dont elle dispose, puisqu'elle est technique, sont de plus en plus puissants. Et ils connaissent un développement de puissance qui est équivalent à celui qu'on connaît actuellement. En gros, multiplié par 100 tous les 10 ans. Par 2 tous les 2 ans, par 100 tous les 10 ans. Et donc, assez rapidement, au bout d'un siècle, on a des milliards de milliards de milliards plus puissants des ordinateurs qui peuvent donc faire des simulations. Actuellement, on fait déjà des simulations. Hein. Beaucoup d'ordinateurs en météo font de la simulation de météo. Mais on peut imaginer que dans un milliard, dans 1000 ans ou dans 100 ans, on aura des ordinateurs tellement puissants qu'on pourra simuler des civilisations complètes. Alors, là, il n'y a que deux options. Soit les civilisations qui ont donc survécu s'intéressent à faire des simulations, soit elles ne s'y intéressent pas. Si elles ne s'y intéressent pas, toujours pas de problème, mais si elles s'y intéressent, c'est à ce moment-là, c'est là qu'il y a un problème. Parce qu'elles sont capables de simuler des milliers de civilisations avec des milliards d'individus à l'intérieur qui tous croient exister réellement et ne pas être dans une simulation et dans un monde réel. Puisque sinon, leur comportement serait altéré par le fait de savoir qu'ils sont dans une simulation. Et donc l'ignorant étant pris dans l'illusion d'exister, ils sont finalement des acteurs inconscients de la simulation et participent de génération en génération à son existence. Et là, petit problème, c'est qu'une civilisation hypertechnique peut simuler des millions de civilisations. Et donc si nous sommes des êtres pensants, peut-être que nous croyons seulement penser, et peut-être que nous sommes pris dans cette simulation. Et le calcul de Bostrom est fascinant parce qu'il dit, si un cerveau pense, il a une chance sur 1000 d'exister vraiment.
The Girl from Ipanema, la version d'Amy Winehouse que deux de vos personnages se retrouvent à chanter dans votre roman. Hervé Le Tellier ne racontera pas évidemment dans quelles circonstances. Il y a plusieurs chansons comme ça, réelles et inventées, hein, surtout qui parsèment votre ouvrage, notamment une chanson d'Ed Sheeran dont vous nous annoncez la sortie pour 2021, puisque l'action du livre se passe en 2021. Le titre c'est So Tired to Be Me, donc je ne vais pas trouver évidemment, vous ne pouvez pas la diffuser, mais ça m'a bien donné envie. Alors on l'a dit, Hervé Le Tellier, hein, cette anomalie qui donne son nom à votre livre pose beaucoup de questions philosophiques et scientifique, beaucoup de questions politiques aussi. D'ailleurs, le président américain, je vous cite, reste bouche ouverte, présentant une forte ressemblance avec un gros mérou à perruque blonde. Votre histoire, je viens de le dire, se passe en 2021, donc Donald Trump sera réélu dans quelques mois.
Ben, j'espère que c'est une fiction. Voilà, j'espère. Moi, je l'ai écrit, c'était...
Vous mettez un jeton sur la réélection de Trump, quand même.
J'espère que je me trompais, voilà. Ça sera le... Le point positif, c'est que je me serais trompé.
C'est un vrai personnage de roman, Trump ?
Ah oui, je trouve. Ah bien sûr. Bien sûr, c'est un vrai personnage de roman. On l'imagine très bien, par exemple, se trouver l'un des personnages essentiels dans un livre, par exemple, je pense à un livre de Caddy qui s'appelle Le Maître du Haut Château. Je vois très bien un personnage comme Trump être l'un des gouverneurs des États-Unis d'Amérique dirigés par les nazis ayant gagné la guerre. Si je puis me permettre. ce point Godwin. Mais rappelons la trame d'un livre comme... Le Maître du Haut Château, c'est quand même un livre formidable de Dick, dans lequel on imagine une Uchronie où les Alliés ont perdu la guerre et où les forces de l'Axe l'ont gagnée et où les États-Unis se partageaient en deux. C'est le genre de livre que je trouve extrêmement stimulant parce que justement c'est une expérience de pensée sur l'histoire. Moi, ce que j'ai voulu écrire, c'est une expérience de pensée. C'est-à-dire, j'entends parfois dire que c'est un roman de science-fiction, mais ce n'en est pas un en fait. C'est pour ça que je l'ai mis dans un an parce que c'est tout de suite là, et quand vous dites que la chanson de Sheeran n'existe pas, mais elle pourrait exister, ben c'est ça, c'est-à-dire que c'est de la pop culture, mais simultanément, ça nous permet d'ancrer le roman dans du réel quotidien d'aujourd'hui.
Et donc avec des vrais personnages.
Avec des vrais personnages.
Comme celui de Trump.
Comme celui de Macron.
Comme celui de Macron qu'on croise, voilà. Comme celui de Villani aussi qu'on croise.
Alors, celui de Villani qu'on croise.
Là, bon, alors évidemment, c'est un petit clin d'œil au mathématicien que vous êtes aussi un peu, toujours.
J'étais un mauvais mathématicien.
Oui, ça vous a servi quand même, ce parcours scientifique pour écrire ce roman-ci.
Bien sûr. Je suis resté un grand fan de science. Je continue à être abonné à des journaux de science. J'en lis beaucoup. Je découvre à quel point finalement, de plus en plus, les mathématiciens, comme les physiciens, considèrent que le monde obéit à des lois physiques qui vont tout régir. Et finalement, ça justifie presque l'idée de la simulation de plus en plus, parce que rien n'empêcherait de simuler le monde, puisque rien n'obéit à autre chose que des lois physiques et mathématiques. Donc la simulation pourrait très bien se débrouiller avec l'application de lois physiques pour absolument tout. Je reste assez proche de cette idée des mathématiques puissantes qui dominent le monde.
Et est-ce que vous êtes de ceux qui pensent qu'un algorithme, par exemple, pourrait servir à écrire un roman ? C'est un bon exercice, ça, peut-être, pour un membre de l'Oulipo, non ?
Oui, mais peut-être pas un algorithme, mais sans doute un réseau neuronal capable. C'est déjà le cas, hein. Il y a déjà des ordinateurs qui créent de la poésie, et lorsqu'on demande à une foule de lecteurs est-ce que c'est écrit par un poète ou est-ce que c'est écrit par un être humain, par un poète véritable ou est-ce que c'est écrit par une machine, ils se trompent, ils sont incapables de voir ce qui est écrit par une machine, parce que une fois de plus, on retrouve le principe de l'esthétique de la réception, c'est le lecteur qui fait le livre. Et donc si on décide d'avoir une empathie vis-à-vis d'un texte, on peut pas se rendre compte que le texte a été écrit par une machine. Alors je pense que oui, ça va arriver. Aujourd'hui, on a déjà des trailers de cinéma qui sont faits par des machines. Aujourd'hui aux États-Unis ou au Canada, par exemple, les matchs de hockey sont commentés par des machines.
Et on ne peut pas. Mais vous trouvez ça formidable ou ça vous inquiète ?
Ça m'inquiète. Ça m'inquiète énormément. Mais c'est absolument impossible d'obtenir aujourd'hui un moratoire sur l'intelligence artificielle. Personne n'est prêt à le faire. Il y a des gens qui demandent à ce que ça s'arrête parce que justement il y a un vrai danger. Mais nul ne veut s'arrêter. Tout le monde a peur de la domination chinoise sur l'IA. Tout le monde a peur finalement d'être pris dans un système capitaliste, d'être entièrement dominé par une puissance étrangère. Et donc tout le monde travaille. C'est impossible d'obtenir qu'on s'arrête. Avant-hier, j'ai vu que, pour la première fois, un combat avait été réalisé, un combat aérien entre un chasseur, alors ça s'est fait sur simulation, entre un chasseur aérien dirigé par le meilleur pilote américain et une IA. L'IA a gagné 5 fois de suite.
IA, intelligence artificielle,
a gagné 5 fois de suite dans un drone qui n'a pas à s'embarrasser des 5G qu'ils encaissent. Et donc, elle a évidemment, très rapidement, sur son drone, abattu un chasseur de type F-16 sans aucune difficulté. Donc, on va vers ça. Et je pense qu'effectivement, il y a une vraie question qui se pose, de savoir si les êtres humains sont capables de s'imposer un moratoire sur cette question du développement de l'IA.
Alors, il y a des scientifiques, il y a des politiques, il y a aussi
des religieux,
des leaders spirituels et religieux hein, dans l'anomalie. Alors, le chapitre est absolument génial. Moi, c'est l'un de ceux qui m'a fait le plus rire. Les dialogues sont vraiment savoureux. On sourit, on rit et en même temps, on se dit que c'est extrêmement documenté. Quoi.
Oui, j'ai interviewé...
Ce que dit chaque religion, chaque secte sur la création, sur le rapport à la mort, sur le bien et le mal, ça correspond rigoureusement. Aux écoles de pensée et aux écoles spirituelles américaines.
J'ai fait un travail de documentation important. Tout à l'heure, on a écouté l'extrait qui se passe dans un avion. J'ai demandé à un ami pilote qui a écrit un livre qui est très drôle, qui s'appelle Captain Speaking, d'être l'un des deux pilotes qui vérifiait que tout ce que je disais était juste. Pour ce chapitre sur les religieux, j'ai demandé à des pasteurs, des rabbins, des prêtres, des soufistes, des sunnites, des chiites, des salafistes même, de vérifier tout ce que je disais. Donc et même des bouddhistes. Donc j'ai essayé en permanence, c'est un chapitre qui m'a demandé un boulot de dingue,
oui.
Juste pour la question simplement de savoir s'il y a des créatures de Satan. Juste la question, y a-t-il des créatures de Satan ? J'avais un deuxième chapitre consacré à l'âme, je l'ai complètement éliminé, c'est trop long. Mais la question de l'âme est extrêmement intéressante. Qu'est-ce qui fait qu'on a une âme ? Pour la plupart des religions, c'est un souffle de Dieu qui se pose sur nous. Pour moi, c'est pas ça l'âme. Il n'y a pas d'âme, on est simplement un système qui réfléchit avec des neurones, des synapses, des capteurs. Et puis avec tout ça, on se débrouille parce qu'on en a vraiment beaucoup et beaucoup d'interconnexions. Mais on sait bien que la mémoire, elle est inscrite dans notre cerveau. Mais la question des religieux est surtout de savoir s'il y a une création, si le monde est guidé par une intelligence supérieure, s'il y a un jugement, c'est surtout la question du jugement qui est là. Et puis la question bien sûr de qu'est-ce qui nous anime, qu'est-ce qui nous soutient, est-ce qu'il y a des règles morales qui nous viennent d'ailleurs, etc. Donc toutes ces questions, oui, je les ai posées pour avoir une réponse à la question toute simple qui était « Y a-t-il des créatures de Satan ?» de manière à éviter que ces gens qui étaient lâchés dans la nature et qui se retrouvent en double se fassent assassiner par des cinglés.
Voilà, donc on apprend beaucoup de choses, on réfléchit beaucoup, on sourit, on rit hein, dans ce roman extrêmement savoureux. Et à propos de saveur d'ailleurs, figurez-vous, c'est l'heure du dîner.
Bon, le jambon, cuisson 1h15, 180 degrés. Le gratin, c'est fait, il n'y aura qu'à réchauffer. Ah, les entrées, le melon et les huîtres. Normalement, c'est la quantité pour 4 gros mangeurs. Ça devrait suffire.
Voilà comment Charles prépare son dîner avec Winston. Mon dîner avec Winston, c'est une pièce qui se joue en ce moment à Paris, au Théâtre du Rond-Point, jusqu'au 27 septembre. Un seul en scène avec Gilles Cohen, qui met en scène un de vos textes, Hervé Le Tellier. Amélie Beaucourt est allée voir la pièce.
Maintenant, les cigares, les doubles Corona de 19 mm et... Roméo et Giulietta Churchill. Il paraît que vous en avez fumé 150 000, 27 km de cigares. Presque la distance entre la France et l'Angleterre.
Charles vit seul dans son petit appartement depuis que sa femme l'a quitté. Ce soir, plutôt que de se laisser aller à la déprime, il a invité chez lui Winston Churchill, pour qui il s'est découvert une passion et à qui il s'adresse en préparant le dîner.
Ah non, non. Je vais plutôt mettre le whisky et les cigares dans la salle de bain, histoire de rien changer à vos habitudes. Hein. Voilà, comme ça vous pourrez fumer et boire tranquillement dans votre bain, tout en donnant des ordres.
C'est le comédien Gilles Cohen qui s'est glissé dans la peau de Charles et qui met également en scène ce dîner. Mais de toutes les personnes qu'on pourrait inviter à notre table, pourquoi avoir choisi Winston Churchill ?
Parce que j'aime bien le type, j'avais déjà lu des biographies de lui, puis après les discours m'ont semblé très pertinents, et puis le bonhomme me touche énormément, ne serait-ce que physiquement, sa rondeur, son humour, sa force aussi, sa puissance, et puis ses paradoxes. C'est un type hyper intelligent, quoi. Hyper brillant, archi-cultivé, une sorte d'aventurier qui avait peur de rien. C'est un peu des mecs comme Joseph Kessel ou Romain Gary, c'est des types qui étaient... c'est des aventuriers, quoi. Je suis plutôt un bobo parisien qui a peur de tout, quoi.
Plutôt que d'incarner lui-même le Premier ministre anglais, Gilles Cohen a fait appel à la plume d'Hervé Le Tellier pour créer un personnage décalé aux antipodes de l'icône qu'il admire.
C'est complètement par hasard parce que je cherchais quelqu'un pour l'écrire et il avait fait un spectacle ici qui s'appelait Moi et François Mitterrand. C'est déjà la mise en parallèle entre un homme politique célèbre et un petit bonhomme de la vie de tous les jours. Et moi, j'étais parti sur les discours de guerre, mais je savais que je voulais pas tomber dans un spectacle, vous savez, pédagogique ou historique. Et donc, je savais qu'il fallait rendre fictionnel tout ça. Il me semblait qu'Hervé était la bonne personne pour le faire. Surtout, d'autant, il a eu une attitude très généreuse envers moi, qui m'a dit, je te l'écris, je te demande pas de fric, on y va, je l'écris. Et il s'est rendu très très disponible. Je pense qu'il a vraiment fait le travail que peut faire un auteur de théâtre avec les acteurs, c'est-à-dire qu'il a été une grande souplesse, quoi. Et de point de vue pratique et du point de vue écriture, on a dû faire 80 versions de la pièce.
Le texte est parsemé des plus grands discours de Churchill, mais aussi des petites phrases croustillantes dont lui seul avait le secret.
Hé, Dino, je repense à ce que t'as sorti, tu sais, à ton secrétaire, quand il est venu te chercher aux chiottes, là, parce que un ministre voulait te parler de toute urgence. Dites à Lord Salisbury que je suis scellé au cabinet et que je ne peux m'occuper que d'une merde à la fois.
Sur l'écran de télévision du salon, des images de Churchill défilent. On entend parfois sa voix, comme si elle répondait à Charles, si bien qu'au fil de la soirée, une présence quasi fantomatique s'installe. Les bouteilles de champagne se vident, les souvenirs malheureux de Charles ressurgissent et on comprend un peu mieux pourquoi il attend Winston.
Oui, c'est plutôt comme un père, quoi. C'est un père absent, un type qui vient pas, qui l'attend et qui vient pas, qui ne viendra jamais, puisque c'est un fantôme. C'est le mec comme dans Superman, c'est le mec qui a des super pouvoirs dont on n'arrive pas à se défaire, dont on voudrait se détacher, mais auquel on est toujours attaché.
Bonne nuit, dormez bien, rassemblez vos porte-voileaux, car l'eau viendra. Vive la France!
Reportage Winston d'Amélie Beaucourt pour VMDN. 80 versions de la pièce, Hervé Le Tellier, comment est-ce que vous avez travaillé avec Gilles Cohen? Ça veut dire des allers-retours comme ça entre la table et le plateau, comme on dit en théâtre?
Il y a dû avoir 80 allers-retours, mais c'est pas 80 versions. Enfin, ça dépend comment on considère ce qu'on a fait une version. Parfois, c'est infinitésimal, c'est du cosmétique.
C'est-à-dire que tout ce que vous avez écrit, il fallait que ce soit beau, que ce soit grand, dans la bouche du comédien?
C'est difficile de travailler, c'est une expérience personnelle, de travailler à plusieurs sur un texte. Là, on travaillait à deux, donc j'avais tout de suite l'aller-retour avec un comédien qui est aussi son propre metteur en scène. Alors, ça peut avoir des avantages et des défauts d'être son propre metteur en scène. Ce qui était intéressant pour moi dans ce travail, c'était vraiment me pencher sur ce que voulait un comédien et finalement lui obéir, être à son service.
Qu'est-ce qui vous a surpris?
Ce qui m'a étonné, c'est qu'on puisse se mettre d'accord sur des points et qu'il puisse évoluer lui-même et que moi aussi je puisse changer. C'était pas la confrontation de deux égos tyranniques et despotiques qui voulaient l'un que son texte soit joué dans son intégralité et l'autre arriver à dire tout ce qu'il voulait dire. On a réussi à se mettre d'accord sur une création d'une vraie pièce de théâtre dans laquelle il y avait un vrai personnage avec une vraie identité, tout en arrivant simultanément à rendre ce qu'on voulait rendre, c'est-à-dire que c'est une pièce sur le langage, sur le pouvoir par le langage. Parce que Churchill est un homme qui s'est retrouvé minoritaire, qui s'est retrouvé seul face à une chambre des communes qui lui était au début hostile. Et c'est vraiment par la puissance du langage, par la force de la langue anglaise, qu'il a réussi à retourner parfois des situations qui étaient perdues.
Mon dîner avec Winston, texte d'Hervé Le Tellier, mise en scène et interprétation de Gilles Cohen. Merci beaucoup Hervé Le Tellier.
Merci beaucoup à vous.
Et puis évidemment à L'Anomalie, le roman chez Gallimard, dans une poignée de secondes sur RFI, l'info. Et vous m'en direz des nouvelles.